Bonjour à tous. C'est vrai, les rangs sont clairsemés. Les vacances. Nous, on a eu quelques jours de repos cette semaine. C'était des jours courts, trop courts, qui ont été bienfaisants. Néanmoins, je peux vous continuer à vous laisser comme sujet de prière, hein. Vous savez qu'on réfléchit, notamment avec mon épouse, sur la suite à donner à notre ministère. Sur la suite aussi par rapport aux anciens. Alors ce matin, contrairement à ce qu'on a annoncé dimanche dernier, je vous propose de poursuivre la série sur Marc. On avait prévu de questionner la responsabilité, qu'est-ce que c'est un responsable dans l'Église, et on a pris conscience que beaucoup seraient absents, donc on l'a repoussé dans quelques semaines, quand il y aura les uns et les autres seront revenus. Donc on vous propose de poursuivre dans l'Évangile de Marc. On est au chapitre 9. Depuis le début de l'évangile de Marc, hein, c'est peut-être vous l'avez peut-être vu cette image, c'est toute la question de qui est Jésus, de l'identité de Jésus. Marc, à travers des petites séquences de la vie de Jésus, est en train de montrer à ses lecteurs qui est Jésus et qu'il a toute cette autorité sur tout un tas de choses, par ses guérisons, par ses discours. Jésus est quelqu'un comme personne n'a été présenté ici-bas jusqu'à présent, qu'il était en train de réaliser toutes les promesses données au peuple juif. Et depuis le chapitre 8, Marc demande à ses lecteurs plutôt de se positionner. Donc c'est plutôt qui est Jésus, mais pour moi. Voilà, est-ce qu'on a confiance ou pas ? Donc on rentre dans la question de la foi qu'évoquait Timothée tout à l'heure. Et on l'a vu dimanche dernier avec le texte qu'avait choisi Matthieu, qui précède notre texte, hein, mais qui dites-vous que je suis? Quelle est la place de Jésus dans ma vie? Et on a vu que les contemporains de Jésus, que ce soit ses disciples, que ce soit la foule, que ce soit les religieux de l'époque, ils avaient du mal à saisir la portée et la profondeur de qui était Jésus. Malgré tout ce qu'ils voyaient, ils avaient du mal à saisir la mission et l'œuvre de Jésus-Christ. Ils voyaient que c'était quelqu'un d'exceptionnel, mais ils avaient du mal, même les proches disciples qui l'accompagnaient depuis des semaines, parfois des mois, ils avaient du mal à discerner toute la portée de cette venue exceptionnelle. Et ce qui est surprenant de Marc, c'est que dans l'épisode de ce matin, on va avoir des détails comme on n'a jamais eu. L'épisode va pas être aussi concis que d'habitude. D'habitude, quand il parle d'une guérison, il va aller à l'essentiel. Mais là, on va voir qu'il va donner un certain nombre de détails. Et c'est un épisode qu'on retrouve dans les autres évangiles, que ce soit l'évangile de Luc ou de Matthieu. Et dans les deux autres évangiles, ils sont plus courts que celui de Marc. Donc là, on se dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que Jésus et Marc, notamment, sous la plume de Marc, veut nous laisser interpeller. Mais avant de prendre le texte, je vous propose simplement de nous incliner encore dans la prière et j'aimerais nous inviter à nous adresser au Seigneur. Ouais, Père, c'est vraiment avec beaucoup de privilèges et de reconnaissance, Seigneur, que nous voulons ouvrir ta parole. Merci pour ces auteurs que tu as inspirés pour nous laisser une trace de ce que Jésus-Christ était venu accomplir sur cette terre, sur son message, sur ce qu'il était capable de faire. Et je prie que tu puisses toucher notre cœur ce matin. Tu connais les circonstances de chacun d'entre nous, par rapport à toi, par rapport à la foi, par rapport à la compréhension que nous avons de Dieu. Et je prie que nous puissions être encore renouvelés, encouragés, à fixer notre regard sur Jésus-Christ. Marc nous interpelle à qu'est-ce qu'est Jésus pour moi ? Et c'est vraiment une invitation à ce que chacun puisse saisir la beauté et la profondeur de l'œuvre de Christ. Merci pour ton esprit qui travaille nos cœurs. Merci pour ta venue qui a changé à jamais le cours de l'existence. Amen. Alors on est au chapitre 9 de Marc 9. Pour ceux qui prennent des Bibles à l'arrière, on est à la page 651, et ça suit la transfiguration, et on est au verset 14. Je propose verset 14 à verset 32. lorsqu'ils revinrent vers les disciples. Donc là, c'est Jésus et trois de ses disciples qui, après la transfiguration, redescendent de la montagne, revinrent vers les disciples. Ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » ? « Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'enfant sortit de l'enfant en poussant, l'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Bon, c'est un texte un peu bizarre, hein. Si on était face à un enfant de cette situation-là, je sais pas comment on se positionnerait. Ma première question, elle est assez facile. Pourquoi on est réunis ce matin ici? On est rassemblés parce qu'il y a une des raisons, c'est la foi. À cause de notre foi en Dieu. Soit parce qu'on a la foi, soit parce qu'on s'y intéresse un peu. Et depuis le début de l'évangile, la réponse que Jésus attend de ses auditeurs, de ceux qui, de ses témoins des enseignements, de ses guérisons, c'est la foi. C'est de placer sa confiance en lui. Marc 1, 15, hein, c'était le discours, que Jésus avait. Il disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ayez confiance. C'est la foi, c'est placer sa confiance en Jésus. Et donc, Jésus attend que les personnes prennent position pour lui. Donc, on a 2 catégories, hein, ceux qui croient et ceux qui croient pas. Oui et non. Dans notre société, on est encore assez conciliant envers ceux qui ont une foi, en foi en Dieu. Tant mieux pour lui, on est heureux pour lui. La question de la foi est parfois valorisée. Mais le texte va plus loin de ce matin que simplement d'avoir la foi et de ne pas avoir la foi. Vous l'avez probablement remarqué, il y a un peu 3 profils. Il y a les ennemis de Jésus, hein, il y a les amis de Jésus, les disciples de Jésus, et puis il y a ceux qui sont indécis. Et c'est vrai que la Bible prend en compte tous ces profils, et qui peuvent être représentatifs aussi de nous, ceux qui ont la foi, les disciples, ceux qui sont opposés, et ceux qui sont indécis, qui ne savent pas trop. Et le verdict pour toute cette foule qui est rassemblée là, le verset 19 de Jésus, c'est « Génération incrédule, génération sans foi, vous manquez de foi ». Et c'est vrai qu'on soit croyant ou pas, notre gros problème, c'est l'incrédulité. C'est ce manque de foi, celui qui doute. Et Jésus-Christ n'en peut plus. Verset 19, hein, c'est ça. Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? On voit que,
pas que Jésus est exaspéré, mais il voit que face à lui, il a des gens qui manquent de confiance, manquent de foi. Et il n'en peut plus. Alors on voit, il y a les trois groupes. Il y a les sceptiques, les adversaires. Hein, ça, c'est assez évident depuis plusieurs textes qu'on voit avec Marc. On voit que voilà, Jésus, ça dérange, on n'est pas d'accord et on le fait entendre. On les a déjà croisés à plusieurs reprises. Ici, au verset 14, on le sous-entend clairement avec les spécialistes de la loi. Tout en ayant connaissance des choses de la loi de Dieu, ils s'opposent à Jésus. Et alors, le texte le dit pas comme ça, mais on a l'impression que face à l'échec de la guérison des disciples, les disciples, hein, verset 17-18, n'ont pas réussi à guérir. Ils ont été incapables d'aider ce fils. Et on a l'impression que voilà, il y a tout un débat. Des adversaires, voilà, il y a un échec, un élément de plus à ne pas croire en Jésus, ça discrédite la foi de ses disciples, voilà. Alors, c'est peut-être le cas ce matin, hein, on n'est pas croyant du tout, parce que, en fait, la raison principale, c'est les disciples, et là, on a l'impression que, dans ce discours entre la foule, les disciples, et ces spécialistes de la loi, cette guérison qui n'a pas pu se faire par les disciples, ben, c'est un sujet de discréditer la foi. Votre foi, elle est inutile. Vous n'avez même pas réussi. Jésus, il est parti. Au chapitre 6, les disciples, ils avaient réussi à guérir. Et là, ils n'arrivent pas. Donc, voilà, ça montre bien que votre foi, elle n'est pas terrible. Et c'est vrai que, en tant que croyant, parfois, non, en tant que non-croyant, la raison principale qu'on n'ait pas foi en Dieu, bah, c'est quand on voit les chrétiens. L'hypocrisie des chrétiens, voilà, leur manque d'ardeur parfois, leur manque de fraîcheur. En fait, on se dit, bah, quand on regarde un chrétien, leur vie donne pas plus envie que la mienne, donc pourquoi je devrais croire en leur Dieu? Et c'est malheureusement souvent les discours qu'on entend de ceux qui ne veulent pas avoir Dieu dans leur vie, bah, voilà, ils regardent aux chrétiens. Et c'est vrai, à ceux qui se disent disciples. Donc il y a les ennemis, mais il n'y a pas seulement les ennemis. Il y a les disciples de Jésus. Mais les disciples de Jésus sont aussi sceptiques. Ils ont aussi du mal à croire. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce miracle. Et ce que Jésus dit lorsqu'il les prend en privé, hein, c'est un peu vers la fin de notre passage, il dit, cette guérison-là ne peut sortir que par la prière. Ça veut dire que les disciples, ils n'ont pas prié. Ça veut dire que les disciples n'ont pas prié. Alors, quel est le rapport avec la foi? Qu'est-ce que c'est la prière? En fait, la prière, c'est l'expression tangible de notre foi, de notre confiance, de notre attachement à Dieu. Si on prie, si on dialogue avec Dieu, c'est qu'on a confiance en lui, c'est qu'on veut déposer devant lui ce qu'on est en train de vivre, nos questions, nos échecs, nos troubles. Parfois, on attend le dernier moment. On l'évoque souvent dans nos prières. C'est quand on a épuisé toutes nos ressources humaines qu'on se dit « Seigneur, viens au secours de mes difficultés ou de ma vie. » Quand on est au bout du rouleau, on pourrait dire parfois. Ben là, les disciples, ils n'ont pas prié, ils ne se sont pas attendus à Dieu. En fait, c'est un manque de foi. C'est un manque de confiance à Dieu. Et c'est vrai que quand en tant que chrétien, on ne prie pas, ça démontre quelque part une incrédulité. On n'a pas suffisamment confiance à Dieu. C'est vrai, on a beau prêcher, on a beau venir à l'église, on a beau dire qu'on croit en Dieu, à cocher la case foi, mais dans les faits, dans nos quotidiens, on réalise combien souvent notre confiance, ça veut dire notre foi en Dieu, elle est tellement petite. Et les disciples, là, plutôt que d'avoir placé leur foi en Dieu, ils ont placé leur foi en eux-mêmes, ils n'ont même pas imaginé qu'ils avaient peut-être besoin de demander à Dieu d'agir vis-à-vis de cet enfant. Et l'échec de ce miracle, Jésus le présente comme un manque de foi des disciples. Vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas demandé au Père. Leur manque de confiance. Et on l'a vu déjà dans les épisodes avant. Jésus, à plusieurs reprises, il a secoué ses disciples. Vous n'avez pas su me faire confiance. Vous avez oublié tout ce que j'ai fait. Les disciples sont un peu dans le même bateau que les adversaires. Ils sont parfois sceptiques. Ils ont du mal à croire. Et enfin, on a le troisième groupe. C'est le père du garçon, hein. On le retrouve au verset 17, notamment. Et il dit quelque chose d'intéressant au verset 22. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. il a aussi des doutes. Il est aussi sceptique. Mais ce père incarne les indécis, les incertains. Il ne sait pas où ils en sont, où il en est. Il ne sait pas s'il doit ou non faire confiance. Il est un peu entre deux, là. Il voit l'échec de ses disciples, il a Jésus en face de lui. Et est-ce que Jésus peut faire quelque chose? Peut-être, peut-être pas. J'en sais rien, j'en sais trop rien. Est-ce que Jésus est capable de changer quelque chose dans ta vie? Tu aimerais qu'il le fasse, mais est-ce qu'il le fera? Si tu peux. Mais je sais pas si tu peux. Ça, c'est ce qu'on peut être aussi souvent. On a foi en Dieu, mais face à nos demandes, on se dit, est-ce que Dieu va agir? Donc c'est vrai, ces trois groupes qu'on retrouve dans ce texte sont indécis, sont sceptiques d'une certaine façon. Il y a les adversaires, il y a les amis de Jésus et il y a les indécis qui sont entre deux. Et tous trois sont dans le même sac. Rappelez-vous cette phrase de Jésus, verset 19, « Génération incrédule, vous manquez de foi, vous n'avez pas compris. » Et je pense que la vérité de ce texte, et que je vous propose de voir à travers trois questions, c'est que Jésus veut, non seulement, mais Jésus peut nous sortir de cette situation d'incrédulité, de manque de foi, quel que soit notre positionnement. On peut être opposé à la foi, on peut être favorable à la foi en Jésus et manquer bien souvent de foi, ou on peut être en train de chercher une raison à la foi. Et pour ces trois raisons, Jésus veut répondre, et il peut répondre à cette incrédulité. Alors je vous propose de regarder autour de trois questions. La première, c'est pourquoi on a besoin de croire? Pourquoi on a besoin de la foi? Et deuxième question, qui c'est qui invite à croire? Et enfin, en quoi sommes-nous appelés à placer notre confiance, à placer notre foi? Alors d'abord, les versets 14 à 18, c'est pourquoi nous avons besoin de croire. Et la réponse est à cause du bazar dans notre monde. En fait, ici, dans Marc 9, on a un petit tableau d'une misère humaine, de la misère du monde. On voit qu'il y a une discussion, hein, il y a dans la foule, une foule d'anonymes, de spécialistes de la loi, une foule de disciples. Il y a probablement une querelle d'ego, d'ailleurs, où Jésus va revenir tout à l'heure. Il y a autour d'une souffrance d'une famille, d'un père et d'un fils. Il y a l'impuissance de la foule face au malheur de cette famille. Ce qui est assez fort, c'est le contraste de ce texte, si on le replace avec le texte qui est juste avant. Avant, il y avait la gloire de Christ sur la montagne, autour de trois disciples, la transfiguration, éblouissante gloire. Mais quand ils descendent dans la vallée, au pied de la montagne, il y a une espèce de brouhaha. Il y a une question d'un père aussi. Avant, il y avait le père de Jésus, mais là, il y a le père d'un fils. Il y a l'idée de quelque chose qui est pas beau à voir, de quelque chose qui est dramatique dans une vie de famille. Un père terrestre qui est tourmenté. Au-dessus, c'était le père céleste qui exprimait sa joie en son fils. Le fils parfait, le fils qui est abîmé, dénaturé. En bas, dans la vallée, des hommes qui sont déchus, des hommes qui ne savent pas, qui n'ont pas de repères, ça murmure, ça va dans tous les sens. Et en haut, sur la montagne, c'était l'admiration. Ça me rappelle beaucoup l'épisode de Moïse qui était sur la montagne, qui était en présence de Dieu, et quand il est descendu auprès de son peuple, il y avait ce manque de foi. On est un peu dans cette même image. Et je trouve Marc est très fort en mettant en parallèle ces deux échanges-là. De quoi discutez-vous? Demande Jésus. Verset 16. Hein. Jésus est confronté à cette foule, il voit que c'est le brouhaha, de quoi discutez-vous? Et cette querelle et ces discussions de cette foule cachent un drame humain. Ce fils unique. Si vous prenez l'épisode parallèle dans Luc, on apprend que c'est pas juste un fils, mais c'est le fils unique de ce père. Et quand on a un enfant, et en plus un fils, dans le temps juif, c'est un drame absolu. Et vous serez probablement d'accord avec moi que quand ça touche des enfants, c'est quelque chose qui montre le c'est pour ça que je disais le drame le bazar de notre monde, quand ça touche les enfants, c'est les choses qui nous frappent, qui nous interpellent le plus. La vie d'un enfant est en danger. On peut prendre facilement l'illustration, hein. On est touché, le voyage en Ukraine, là, on est touché de voir ces orphelins ukrainiens qui ont été déplacés, ou ces enfants qui ont été placés pour mettre en sécurité. Ça nous touche. On est ému. Les infos sont assez, en ce moment aussi, mettent l'accent là-dessus, sur les enfants à Gaza. On est touché par cette misère atroce qui touche ces enfants. Cette famine. Ces enfants évacués par les Italiens, j'ai entendu hier aux infos, qui ont été mis en sécurité. En Afrique, quand on voit ces enfants qui sont malnutris, ça nous touche. Et on trouve que c'est terrible, ces drames, ce bazar du monde. Quand on a notre propre enfant qui est malade, je crois que tous parents, quand on voit nos enfants vraiment affaiblis, combien de fois on n'a pas dit « Ah, j'aimerais être à la place de mon fils, à la place de ma fille, j'aimerais être malade. » Et c'est ce qui se passe dans cette histoire, c'est le drame autour d'un enfant. Et pourquoi je peux mettre l'accent là-dessus? Parce que, je disais, Marc, il est assez concis d'habitude sur ces épisodes, mais ici, quatre fois, il rappelle le drame de cet enfant. Plus de quatre fois, au verset 18, au verset 20, au verset 22, au verset 26, il dit que cet enfant est possédé, qu'il se jette, qu'il écume, qu'il se jette dans le feu et dans l'eau. Plusieurs, quatre fois, Marc, il est obligé de décrire, il aurait pu le décrire une seule fois, mais il montre ce drame qui est en train d'être présent là. Et dont toutes les conséquences qui vont avec pour ce papa, parce que j'imagine voir son enfant se jeter dans le feu ou dans l'eau, je sais pas si on le laisse souvent. Lorsque le mal n'épargne pas les plus fragiles, même ceux qui sont, entre guillemets, les plus innocents que les enfants, ça rappelle qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre monde. Et c'est dans ce genre de situation dramatique qu'on doit se poser la question de croire en quelque chose, de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, notre espoir. Et ici, Marc le souligne, il y a l'impuissance de l'homme, l'impuissance, le Père est au bout de ses moyens. Les disciples de Jésus n'ont rien pu faire. Verset 22, si tu peux faire, il y a cet espoir encore, le Père a encore un ultime espoir, c'est Jésus, cet homme-là qu'on entend parler dans la région, si tu peux faire quelque chose, encore un espoir. Tout en émettant des doutes sur la capacité de Jésus d'agir, si tu peux faire quelque chose. Il ne sait pas si Dieu peut faire quelque chose. Il ne sait pas si Jésus peut faire quelque chose. Et c'est vrai que face à l'impuissance, face à ce qu'on voit autour de nous, on a besoin de croire en quelque chose. Dans notre texte, le Père refuse de renoncer à l'espoir. Et c'est vrai que vous entendez partout autour de ce monde, la question de l'espoir fait toujours sens pour l'homme. L'homme a toujours un peu l'espoir de jour nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste de rue qui dessine des graphes sur le mur, c'est Banksy. Et là, il a une de ses premières œuvres, c'était une fille avec un ballon. Et il y a notamment une phrase aussi, c'est la question de la foi. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Quand le Père n'a plus de raison d'espérer, il continue d'espérer. Je relis le verset 22. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Pourquoi avons-nous besoin de croire? Parce que le monde est en bazar, parce que le monde va mal et que notre impuissance humaine est totale. Malgré cela, refusons de perdre espoir. La deuxième question, versets 19 à 20, qui est-ce qui nous invite à croire? C'est bien beau de dire qu'on ne doit pas refuser de baisser les bras, de garder espoir, mais où plaçons-nous notre espoir? Où plaçons-nous notre foi, notre confiance? Et Marc, et on le voit que Marc le fait de façon merveilleuse, braque les projecteurs une fois de plus sur Jésus. C'est lui le centre, c'est lui la star, c'est lui qui est au centre. C'est lui qui nous invite à croire. Alors il y a deux objections généralement qu'on entend de ne pas placer notre foi en Dieu. Jésus n'est pas bon. Ou Jésus n'est pas assez puissant, ou Dieu n'est pas assez puissant. Dieu n'est pas assez puissant, Dieu n'est pas assez bon. S'il était bon, s'il était vraiment, s'il était bienveillant envers les hommes, il serait, est capable d'intervenir, il interviendrait dans tous ces drames qu'on entend. On a l'impression qu'il s'en fiche de toute cette souffrance qu'on voit dans ce monde, que notre monde traverse. Il ne peut pas être bon. Avoir un Dieu, vous avez un Dieu bon, mais regardez. Ça, c'est une des premières objections. Il ne peut pas être bon parce que s'il verrait, comme nous voyons, la souffrance du monde, nos souffrances, ben, il interviendrait. Une des deuxièmes objections, c'est que Dieu n'est pas capable, n'est pas tout puissant. Il voit, mais il est incapable de venir à notre secours, à notre aide. Ça, c'est souvent les deux objections. Si Dieu était vraiment puissant, si Dieu avait vraiment l'autorité que vous lui dites, que vous lui donnez, il viendrait à votre, il viendrait vous secourir, vous aider de façon assez magistrale. Et c'est les deux questions qui sont sous-entendues dans cet épisode. Si tu peux. Est-ce que tu es suffisamment bon pour m'aider ou est-ce que tu es suffisamment puissant pour m'aider? Mais regardez comment Jésus, au verset 23, répond. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, mais bien sûr, tout est possible à celui qui croit, à celui qui a foi. Qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs, on connaît cette phrase, hein, tout est possible à celui qui croit. La question que je pose, c'est en quoi je crois? Tout est possible. Est-ce que c'est à cause de notre foi? Est-ce que c'est de ma capacité à croire? Est-ce que je suis persuadé que ma foi va changer les choses? On dit souvent dans la vie courante, il faut que tu y crois. Tu vas, vas-y, je crois en toi, tu as les capacités pour réussir. Tu as le physique pour y arriver. Tu as l'intelligence pour réussir tes études. Moi, j'ai foi en toi. Tu veux devenir cela? Oui, tu peux. Tu peux y arriver, pas de souci. Et c'est vrai que quand on pense à foi, parfois on pense à la question de la pensée positive. Il suffit d'y penser pour y arriver. C'est une espèce d'auto-persuasion pour des personnes qui n'en peuvent plus. Il faut que tu crois, il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu aies un peu plus de conviction que cela. Mais si on regarde ce texte, c'est pas ça que la foi veut dire. Parce que Dieu intervient, est-ce que la foi de ce Père, elle est grande? Non, elle n'est pas grande, la foi de ce Père. La foi de cet homme est microscopique, une mini-graine de foi. Elle se différencie à peine des autres. Mais cet homme la place au bon endroit. Et c'est ce que Marc veut que nous comprenions, que ce qui compte dans la foi, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas moi, ma taille de foi, mais c'est où je place ma foi, l'objet de ma foi. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas la taille de ma foi, mais c'est où je place ma foi. Là où je mise ma petite foi. Et le père là, qui est aussi un peu, on pourrait dire, le deuxième héros de cet épisode, c'est qu'à la différence des ennemis, à la différence des disciples, il a reconnu qu'il avait une petite foi et une foi bien, bien trop faible. Il est dans l'incrédulité et il sait qu'il a besoin d'aide. Et je trouve que le verset 24 devrait être presque un verset clé. Il dit, aussitôt le père, hein, face à la demande, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Donc, oui, j'ai une foi. Mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. Oui, je crois, mais je suis trop faible. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Mais c'est la présentation de la réalité de son cœur. Je crois, mais cette foi est tellement petite que j'ai besoin que tu m'aides, que tu viennes à mon secours. Je crois, mais je reconnais que je vais pas y arriver de moi-même. Viens au secours de mon incrédulité. C'est un peu comme acheter quelque chose d'énorme, qui coûte plusieurs milliers d'euros avec une toute petite pièce. C'est un peu ça. Il a pas grand-chose, mais cet homme place sa petite foi, bien trop faible. Cette petite graine, il la place au bon endroit, et 100% au bon endroit. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, cet épisode de la guérison de ce fils est juste suivi de cette graine de moutarde qui fait renverser les montagnes. De cette foi comme une graine de moutarde qui fait renverser. Donc c'est un peu l'idée. Cet homme, il a une foi tellement minuscule, mais il la place au bon endroit. Il la place au bon endroit. Est-ce que Jésus est puissant? Est-ce que Jésus est capable de changer les choses? Ça, c'est la question que je vous pose. Mais quand on a lu jusqu'ici Marc, on peut se dire, mais bien évidemment, vu tout ce qu'on a déjà vu qu'il a fait, on peut affirmer clairement, oui, Jésus est capable. Mais regardez encore comment Marc articule. Verset 20. Dès que l'enfant vit Jésus, L'esprit agita avec violence, il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Depuis son enfance. Depuis son enfance. Là, il y a un renversement des rôles. C'est l'enfant maintenant qui est agité devant Jésus. Et je trouve que, malgré la scène qui doit être assez terrible à voir, Jésus pose une question encore. Dans d'autres épisodes, on a vu Jésus beaucoup plus dans plus rapide, mais là, on a l'impression qu'il prend son temps. Il est calme, il pose une question. Depuis combien de temps ça lui arrive? Il est dans un calme olympien, on pourrait dire. Et au verset 25, il démontre qu'il vient au secours de cet homme. Hein, et aussitôt, voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il y a là, verset 26, là, la guérison. Pleine autorité de Jésus sur cette situation. Effet instantané. Avec une seule parole, Jésus a été capable de guérir cet enfant. L'esprit qui avait résisté aux disciples, qui a, j'imagine, à bien des occasions failli tuer cet enfant, s'il n'y avait peut-être pas eu le père pour le préserver, depuis sa naissance. Et on voit toute la puissance de cette confrontation, parce que les gens autour pensent que cet enfant est mort, tellement ça a été violent. Si tu peux, Dieu est puissant, il le démontre. Dieu est puissant, il l'a démontré. Jésus est capable d'intervenir. Mais Marc nous montre aussi que, donc là c'est la réponse, Dieu est puissant, il est capable de le faire. Est-ce que Dieu ne voit pas notre souffrance? Ben on la voit, Jésus y montre, je suis puissant. Mais on voit aussi qu'il est incroyablement bon, patient, bienveillant. Je trouve il est face à une foule de sceptiques, de gens qui ont du mal à croire, avec des disciples qui n'ont pas encore compris la leçon, et il est patient. Verset 19, il est face à cette foule, il dit, je le reprends, c'est le verset « Génération incrédule, combien de temps je serai encore avec vous ?» Et malgré cela, il dit « Amenez-moi cet enfant. » Il est bon, il est patient. Même avec les disciples, il aurait pu se dire, il les prend après à part et il leur explique pourquoi ils ont failli dans leur guérison. Il guérit. Et moi, je trouve que la manière même dont c'est écrit, alors nous, on le survole vite, mais verset 27, on a l'impression qu'on le laisse pour mort. Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Je trouve, on voit en quelques mots la tendresse de Jésus envers cet enfant qu'il vient de guérir. Le prit par la main. Je trouve que c'est une belle expression. Le prit par la main. Un enfant qui était impur, qui devait être probablement défiguré, à cause, il s'est jeté dans le feu, il s'est noyé plusieurs fois, enfin, on n'en sait rien. Le texte nous le dit pas, mais il le prend par la main. On voit toute la bonté de Jésus envers cet enfant. Et il a fait preuve de patience. Alors, qui est-ce qui nous invite à croire? C'est Jésus. Jésus nous invite à croire en lui. Celui dont il a le pouvoir, l'autorité, la bonté, la compassion, sans limite. Et c'est ce qu'on voit depuis qu'on parcourt. Marc, on a vu des choses extraordinaires. Mais est-ce que on arrive ici et on se dit, est-ce qu'on est comme les disciples? On a du mal à croire parce qu'on se dit, là, il y a une situation qui va échapper. Est-ce qu'il est capable de répondre avec puissance, avec autorité? Est-ce qu'il est suffisamment bon? Est-ce qu'il nous aime suffisamment pour intervenir dans notre vie? Jésus le montre dans cet épisode. Il vient à ceux qui sont dans la détresse. Il vient à ceux qui sont dans l'incrédulité. Il est là pour ceux qui sont lents à croire, lents à comprendre, lents à changer. Moi, je me suis dit, nous, on se connaît humains, mais si on côtoie des gens qui ont du mal à nous faire confiance, une fois, deux fois, trois fois, et après... mais là, Jésus, on enchaîne les épisodes, et Jésus continue, on le voit, parce qu'à la fin, il prend encore ses disciples, il continue à les enseigner. Il est patient, il est patient, il est patient. Et troisième question, en quoi Jésus veut que nous croyons? Et c'est les derniers versets. Où est-ce que Jésus veut que nous placions notre confiance, notre foi? À son existence? Est-ce que Jésus veut que nous croyons qu'il veut nous faire du bien, qu'il a la force et la puissance d'intervenir? Je dirais la réponse, elle est oui, mais non aussi. Parce que dans les derniers versets, on voit à ce que voilà le message que Jésus veut que, en lequel nous placions notre foi. Et c'est l'obsession un peu depuis le chapitre 8 de Marc, la raison pourquoi Jésus est venu. Verset 31, il enseigna à ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Jésus rappelle pourquoi il est venu. Ce qu'on va fêter dans quelques semaines. Jésus rappelle pourquoi il est venu. Voilà le message, l'objet de notre foi dans l'œuvre de Christ. C'est ça le centre. C'est quoi le but? Il est venu. Voilà ce qu'il veut que nous croyons, que nous voyons, que nous comprenions. C'est sa mort et sa résurrection. Et on le voit là dans les deux derniers chapitres. Ça fait déjà la troisième fois qu'on a cet épisode, cet enseignement que Jésus donne et que les gens ont mal à croire parce qu'on le voit aussi. Hein. Cependant, les disciples ne comprenaient pas. Cependant, les disciples ont été incrédules. Cependant, les disciples n'ont pas, ils n'avaient pas suffisamment de foi. Et on voit qu'ils ont même peur de l'interroger, de peur encore que Jésus leur dise « homme de peu de foi ». Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que ce récit de guérison de l'enfant vient illustrer cette mort et cette résurrection de Christ. Il y a un lien. On a l'impression que c'est deux choses différentes, puisqu'il passe à un épisode, mais il y a un lien. Et juste dans le vocabulaire qui est employé. Parce que la guérison de cet enfant est au service de ce message de la mort et de la résurrection de Christ. Parce qu'au verset 26, et quand je disais que Marc, il est parfois avare en mots, par deux fois, il parle de la mort de cet enfant. L'enfant devint comme mort. De sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. La mort. Il y a la place de la mort dans cette histoire d'enfant. Mais il y a la place aussi de la résurrection. Et ça, c'est vrai, dans le texte en français, on le voit pas très bien. Mais, dans le verset 26, Jésus le prit par la main, le fit lever, le verbe lever là, et il se tient debout. Et ces deux mots, quand vous le regardez dans l'original, c'est deux mots qui sont utilisés pour parler de résurrection. Donc quand les lecteurs originaux lisent le vocabulaire, c'est vraiment deux mots qui sont employés pour parler de résurrection. Ça fait écho. Donc après, si vous lisez une ligne en bas que Jésus est mort et ressuscité, ça vous fait écho parce que ça va être les mêmes termes, dans la même racine, que ce qui est en train de se passer avec cet épisode de cet homme, de cet enfant guéri. Il était mort, il est ressuscité par la puissance de Christ. Je suis venu pour mourir et pour ressusciter. Marc est en train de montrer que Jésus vise beaucoup plus qu'une guérison d'un enfant, plus que de réparer des détresses des gens autour de lui, plus qu'une guérison physique temporaire. Il est venu pour être la rançon, il est venu pour payer de sa vie. Il est venu pour racheter tous ceux qui placeraient leur foi en lui, même une foi minuscule, une foi dans sa mort et dans sa résurrection historique. C'est pas un conte de fées. Et Marc a été écrit par des témoins de Jésus, des témoins qui ont eu du mal à comprendre, mais qui, quelques mois après, auront compris le sens de la venue de Jésus-Christ. Voilà ce qu'a fait Jésus et ce qu'on fait. Confiance. Alors la question, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Qu'est-ce qu'on fait de cet épisode qui est un peu simple, à la question autour de la foi et de notre incrédulité? Et il y a un premier élément, c'est que l'incrédulité, ça veut dire notre manque de foi, est commun à chacun. On a besoin de son aide. L'incrédulité nous concerne tous. On a tous besoin de croire. On a tous besoin de croire en quelque chose autre que nous-mêmes. On a besoin de croire en la bonté et en l'autorité de Jésus-Christ. Et pour pouvoir placer notre foi en lui, on a besoin de lui. On a besoin d'être « si tu peux ». On a besoin de faire ce cri de détresse. Et on le sait, il a besoin de travailler nos cœurs. C'est ce qu'on a vu déjà les semaines précédentes. Jésus lui-même garantit que la foi qui est placée en lui, elle est suffisante. C'est pour cela qu'il veut travailler nos cœurs. C'est pour ça qu'il y a son esprit qui veut nous interpeller. On est des hommes de peu de foi. Et on pourrait crier, « Père, viens au secours de notre foi si chancelante. » Adressons-nous à lui hein, comme ce Père Alors, qu'est-ce qu'on en fait? J'aimerais simplement reprendre les trois groupes de personnes qu'on avait vues tout à l'heure. Pour ceux qui sont indécis, qui sont entre frontières, entre foi, sceptiques, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est peut-être le temps aussi, à un moment donné, de se dire, j'ai une petite foi, je ne sais pas si ça vaut quelque chose, c'est minuscule, mais je trouve ce texte est une invitation à miser à 100% cette petite foi en Jésus-Christ. Alors peut-être vous faites partie de ceux qui sont sceptiques, qui ont été blessés, qui considèrent que la foi en Dieu, c'est quelque chose pour les faibles. Mais est-ce que vous avez pris le temps de creuser, de vous interroger par vous-même qui est Jésus? Et c'est ce que Marc nous invite à faire. Marc nous invite, voilà qui est Jésus, et positionnez-vous. Ceux qui sont sceptiques sont invités à se positionner. Il est temps de faire chacun son propre avis. Et puis, il y a les croyants. Alors, si on se considère comme disciples de Jésus, et je crois que c'est ce que je me suis dit aussi en cette semaine en travaillant ce texte, j'ai bien souvent besoin aussi de me repentir de mon manque de foi, de mon incrédulité. Fonctionnelle, je l'ai dit tout à l'heure comme ça. Malgré tout ce qu'on croit en Dieu, dans les faits, on vit souvent par nous-mêmes. On dépend de nous, jusqu'à ce qu'on n'en peut plus. On néglige tellement notre prière. Là, à un moment donné, Jésus met l'accent sur ses disciples, vous n'avez pas prié. Peut-être c'est ça. Notre vie de prière démontre peut-être notre manque de foi, notre manque de confiance, notre manque d'attachement à Dieu. Mais la foi qui est en relation ici, c'est ce que j'aimerais nous laisser nous encourager, c'est réside dans cette relation qu'on tisse avec Jésus. Les disciples, ils n'avaient pas tout compris, mais ils ont continué. Et Jésus a continué avec eux. Et c'est dans cette relation toujours plus intime, toujours plus proche avec notre Seigneur, que naîtra une foi confiante qu'il voudra alimenter, qu'il voudra voir affermir de plus en plus dans ce Dieu Tout-Puissant qui est capable de guérir, de délivrer, de restaurer, de sauver, d'accompagner, de rencontrer. Donc j'aimerais vraiment nous inviter à, dans nos petites fois, à lâcher prise et à dire « Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. » Je voudrais simplement qu'on fasse silence et j'aimerais prier.